Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré à la musique sacrée, à la musique liturgique. Et aujourd'hui, quand j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous proposer, je me suis dit, est-ce que je vais choisir un thème ? Non, je me suis plutôt concentré vers l'une de mes grandes passions, la période contemporaine, et je me suis dit que ça allait en adéquation avec ce dont j'ai pu vous parler. Quand je vous dis pourquoi j'ai fait ce métier, et que je vous ai parlé de création, parce que certes, quand on regarde le passé et les merveilles qui ont été écrites, on peut se dire que tout est là, presque. Sauf que non, aujourd'hui encore, de grands compositeurs écrivent pour la musique sacrée, pour la musique liturgique. Je trouve que c'est une chance pour nous et je pense qu'il faut également préserver ces œuvres, les diffuser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tour dans les chants contemporains en vous présentant notamment deux artistes. Vous allez l'entendre tout de suite. Le premier, il s'agit de Ola Yello, qui est un compositeur que j'affectionne particulièrement. J'ai beaucoup de chance avec la Scola à Saint-Sernin de pouvoir en faire chanter de temps en temps. Il s'agit d'un compositeur qui est né en 1978. Donc, vous voyez, il est encore jeune, il a 45 ans. Il est norvégien, il a fait de très belles études très classiques, notamment à la Juilliard School de New York et au Royal College de musique de Londres. Vous voyez, un cursus bien solide. Et aujourd'hui, il réside aux États-Unis, il travaille comme compositeur indépendant et il fait beaucoup de musique sacrée. Et en particulier, un Tota Pulchra Es Maria que je vais vous faire découvrir tout de suite. Alors, c'est une prière catholique qui est dédiée à la Vierge Marie et qui est extrêmement importante parce qu'elle est beaucoup en faveur du dogme de l'Immaculée Conception par ses paroles. Je vous en fais tout de suite la traduction. Tu es toute belle, Marie, et ta faute originelle n'est point en toi. Toi qui es la gloire de Jérusalem, la joie d'Israël, toi qui es l'honneur de notre peuple, toi l'avocate des pécheurs, ô Marie, Vierge très prudente, Vierge très clémente, prie pour nous, intercède pour nous au Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, là on est vraiment dans le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire conçue sans péché. Et c'est donc un texte qui a été extrêmement porté, notamment, bien entendu, depuis les apparitions de Notre-Dame de Lourdes. Alors, bien entendu, beaucoup de compositeurs ont composé, alors bien avant les apparitions de Lourdes, mais là, il est vrai qu'on a quelque chose qui est dans une mouvance, on va presque dire même, à la mode, et il est vrai qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de Tota Pulchra Es Maria. Alors, la version que je vous présente a un texte légèrement différent, avec un petit ajout, dont voici la traduction. Ton vêtement est blanc comme la neige et ton visage comme le soleil. Et alors, là c'est extraordinaire parce que le compositeur a fait le choix de mettre ce passage en exergue, cet ajout, entièrement par un chœur d'homme, et vous allez voir au milieu ça donne un effet absolument extraordinaire, très suspendu, et le reste de la musique reste très maternant, très bienveillant à l'image de la Vierge Marie. Vous allez donc entendre la version du Tota Pulchra Es Maria de Ola Yello.
Thank you.
très belle œuvre signée Hola Yello, son Tota Pulcra S Maria. Effectivement, j'espère que vous l'avez entendu. Alors, j'ai choisi le fait de pas tellement vous le commenter avant, donc je le commente un petit peu après. Vous l'avez entendu, divisé en trois parties. Deux parties qui se ressemblent, qui font presque comme un miroir, qui encadrent cette partie de cœur d'homme dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, avec cet ajout de texte et cette évocation de la lumière d'un visage tel que le soleil. Et c'est un petit peu paradoxal, parce qu'on aurait pu se dire, pour évoquer le soleil, on serait allé vers quelque chose d'irradiant, plus lumineux, peut-être avec les sopranes, des voix plus aiguës. Eh bien non, le choix est au contraire beaucoup plus intime, presque comme si, quand on évoquait la Vierge, elle ne nous brusquait pas, finalement. Quelque chose de beaucoup plus apaisant, rassurant, avec les voix graves, et c'est le choix qu'a voulu faire ici, je pense, le compositeur. De part et d'autre, donc, de cette petite écart par rapport au texte, il y a cette musique, on va dire, très rassurante de Hola Yello, avec beaucoup, beaucoup d'accords parfaits, avec certains retards qui donnent des effets de style toujours assez appréciables. On commence notamment le morceau avec les femmes qui entonnent, donc pour un chant à la Vierge, effectivement. On sent qu'il y a cet aspect féminin qui est là dans toute l'œuvre et qui constitue le grand socle de cette œuvre. Bien entendu, ensuite, elles sont rejointes par les hommes, mais ça donne quelque chose d'assez intime, d'assez chaleureux pour une très très belle musique qui se termine enfin par un accord là aussi très chaleureux, plutôt vers le grave, avec toutes les voix, là, hommes et femmes compris, un accord parfait, et on est dans quelque chose d'extrêmement rassurant. Donc, à la clé de ce que je viens de vous dire, vous pouvez peut-être le réécouter avec toutes ces petites choses-là et vous dire que là, effectivement, il s'agit d'une pièce extrêmement bien travaillée. Alors maintenant, on va changer radicalement de style, bien qu'il s'agisse là aussi d'un compositeur que j'affectionne énormément. Bon, je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais peut-être pas encore redérouler toute sa vie. Il s'agit de Arvo Pärt, compositeur de génie, à mon sens, peut-être le plus grand dans la musique liturgique actuelle. Il s'agit d'un compositeur qui s'est essayé dans plusieurs styles, hein, notamment le dodécaphonisme qui nous provient de Schoenberg, donc des sons qui, on doit utiliser les 12 sons avant de pouvoir revenir, c'est comme un petit peu de la musique sérielle, c'est extrêmement travaillé, codifié, et d'un point de vue audible, effectivement, si on n'a pas quelques clés de lecture, c'est très compliqué. Mais Arvo Pärt a énormément changé son style, et il a notamment inventé ce qu'on appelle la musique tintinambulie, c'est-à-dire comme si c'était des petites cloches. Et le morceau que je vais vous présenter est totalement dans cette mouvance-là, vous allez très rapidement vous en rendre compte. Également, il est à noter que Arvo Pärt fait énormément de références, notamment au chant grégorien. C'est assez flagrant dans le morceau que je vais vous présenter, dont je vais vous parler tout de suite. Alors, pardonnez immédiatement mon accent allemand désastreux, j'ai pas fait d'allemand. An den Wassern zu Babel. Donc c'est ça qu'a voulu mettre en musique Arvo Pärt, ce qui veut dire « au bord des eaux de Babel ». Ça a son importance, parce qu'il n'y a pas une seule parole qui est chantée dans ce chant absolument incroyable. Donc là, on a cette référence à Babel, c'est-à-dire, vous vous souvenez de cette tour qui signifie un petit peu l'orgueil des hommes, et que Dieu décide de punir en les faisant ne plus se comprendre, de sorte que chacun parle une langue différente. Et bien entendu, la résolution de ça, c'est quand les disciples pourront parler toutes les langues et tous les dialectes bien plus tard lors de la Pentecôte. Mais on n'en est pas encore là. Là, on en est à la division de ces hommes-là, mais il y a quelque chose de très placide dans la façon d'annoncer les choses, puisqu'on parle des eaux de Babel, et donc quelque chose de beaucoup plus presque apaisé. Et vous allez l'entendre, donc tout de suite une référence au grégorien. En fait, toutes les voix vont s'exprimer dans une sorte de mélopée grégorienne, et finalement, les choses sans parole vont peu à peu s'imbriquer pour donner une ambiance totalement spectrale à la musique. C'est-à-dire qu'il y a, une incompréhension, puisqu'il n'y a pas de parole, mais il n'y a pas d'angoisse, comme si finalement il y avait une promesse. Alors la promesse, le compositeur en parle, notamment avec la fin, vous allez voir une fin extrêmement spéciale, qui se termine sans se terminer. Et on comprend bien qu'il y a quelque chose à dire après cela. C'est de l'ordre, à mon avis, du génie, c'est l'un des chants que je trouve les plus impressionnants chez Arvo Pärt. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une ambiance sonore très particulière, il faut être en condition pour l'écouter, dans des conditions d'écoute optimales, c'est-à-dire qu'il faut être dans un environnement calme. Alors si vous écoutez dans la voiture, Surtout, vous courez sur le podcast et vous allez pouvoir le réentendre dans les meilleures conditions pour apprécier ce qu'a voulu vous dire ici le compositeur. Voici donc ce morceau tout à fait particulier qui laisse voir entre quelques petites touches d'orgue, qui laisse voir ces gouttes de pluie tomber dans l'eau et le chant placide et en même temps qui peu à peu s'agrège pour donner un final très spectaculaire. Voici donc An den Wassern zu Babel de Arvo Part.
Thank you.
tel un cri déchirant. C'est ainsi que se termine cet extraordinaire morceau de Arvo Pärt. Vous l'entendez, une gradation absolument immense qui dure pendant 7 minutes, comme si la clameur provenait de ces eaux tranquilles au début, où on avait cette confiance initiale dans le fait de bâtir ce projet, cette tour de Babel, et finalement de se rendre compte, à coups de grands cris et peu à peu de plus grande puissance de l'orgue, qu'on ne se comprenait plus. Et il y a ce vide abyssal par cette fin extraordinaire qui nous laisse comprendre que tout s'est écroulé et que là, véritablement, la musique nous fait comprendre qu'il n'y a plus de compréhension possible. Mais comme je vous le disais, là où il y a une histoire, il y a de l'espoir. Effectivement, cette fin qui n'est pas une fin. Et aujourd'hui, nous le savons, grâce à l'esprit de Pentecôte, je vous en avais parlé au début, peut-être pour vous rassurer, eh bien, il y aura cette réconciliation qui se fera également par la langue, où on pourra tous désormais se comprendre et comprendre le message de Dieu. Et alors, il y a cette espèce d'angoisse qui est présente dans toute cette œuvre, vous l'avez vu, qui commence de façon placide, hein, c'est le terme que j'avais employé, qui est notamment là dans les eaux, hein, proches de Babel, avec toutes les voix, vous avez vu. Ça commence en descendant, presque comme si on descendait vers les enfers. C'est un petit peu d'ailleurs le paradoxe avec Babel qui, elle, s'élève. Là, on commence par les voix aiguës et peu à peu, on va aller vers les graves, vers le sol humain et vers les enfers. C'est presque annonciateur de la catastrophe qui va se passer. C'est, je pense, ce qu'a voulu mettre en avant le compositeur. Et peu à peu, un petit peu comme s'il y avait des couplets et des refrains, vous avez ces espèces d'entonnements qui se font à chaque fois de plus en plus puissants. On en compte trois jusqu'à ce crescendo et ce fortissimo final, cette clameur, cette exclamation de surprise qui montre que sur le visage de l'autre, on ne le comprend plus et que désormais les projets ne sont plus possibles. Voyez donc le génie de ce compositeur qui a pu mettre en avant cela grâce à la musique. Une musique tout à fait particulière, vous l'avez bien entendu, mais en même temps tellement riche et tellement lourde de sens qui font que là aussi, on ne peut que s'incliner face au talent de certains qui continuent à faire vivre la musique liturgique. Donc comme quoi, ce n'est pas un art mort, loin, très loin de là. Et bien entendu, vous vous doutez bien que je vous ai parlé seulement de compositeurs, en plus en vous parlant seulement de deux œuvres, mais il y en existe beaucoup d'autres qui font des choses tout aussi merveilleuses et splendides. Mais voilà, je voulais que vous ayez en tête ces deux compositeurs qui, pour moi, dans des styles tout à fait différents, chacun leur spécificité, sont capables de faire dire beaucoup de choses dans des thèmes tout à fait différents. Voilà pour cette incursion dans la musique contemporaine et liturgique. J'espère que cela vous a plu et que vous aurez la curiosité vous-même d'écouter d'autres compositions ou d'autres compositeurs. Peut-être même pouvez-vous m'en soumettre. Là, ce serait avec grand plaisir. En tous les cas, pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour aborder là, je pense, sauf si je décale un tout petit peu mon emploi du temps de Point d'Orgue, mais pour une très très belle série sur là aussi une œuvre monumentale qui va nous suivre quelques semaines et j'espère que vous allez l'apprécier. Je me permets également de vous faire savoir que le 10 février à 15h à la Basilique Saint-Sernin de Toulouse, il y aura l'inauguration animée par le chœur d'hommes de la Schola Cantorum de Saint-Sernin d'un chemin de croix peint par Héloïse Molinier, une jeune artiste extrêmement talentueuse qui a peint un chemin de croix absolument formidable. Donc non seulement ça sera une sorte de vernissage, de présentation des œuvres, mais qui seront accompagnées par des méditations. Alors là, vous allez avoir un petit peu tous les styles, vous allez avoir de la musique ancienne, notamment les méditations du carême de Charpentier, vous allez avoir de la musique qui est arrivée un petit peu après, notamment par exemple avec Liszt ou Schubert, et vous aurez également des improvisations à l'orgue avec votre serviteur qui vous parle en ce moment. Je serai aux grandes orgues de Saint-Sernin pour le continuo et également pour certaines improvisations pour illustrer certaines station. Ça sera un temps de prière, hein. C'est pas que un moment purement artistique, mais je le pense et je pense qu'on l'a bien démontré aujourd'hui avec les chants d'aujourd'hui, que l'art peut venir soutenir la prière et peut dire beaucoup. Donc venez soutenir les artistes de la Schola ainsi que Héloïse Molinier pour son chemin de croix, un très beau chemin de croix qui restera exposé tout au long du carême à la Basilique Saint-Sernin de Toulouse. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée sur Point d'Orgue et je vous dis, pour ceux que j'ai la chance de voir, à bientôt au 10 février à 15h pour le chemin de croix.